Malheureusement, j'ai une peur affreuse que ça soit la marge de l'histoire.
Le témoin du vendredi, Jean-Louis Bory, tout feu, tout flamme.
Très bien, le docteur Henri Amoroso a dit « Bory est un grand malade, enfermé dans sa névrose constitutionnelle. Se sachant incurable, il est décidé à utiliser cette infirmité naturelle à des fins publicitaires, thérapeutiques et consolatrices. » C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, alors réponse de Jean-Louis Bory.
Ah, étant donné naturellement les fonctions du docteur Amoroso, je cherche sous la table déjà la camisole de force qui va me mettre à la sortie, le scalpel avec lequel il va me lobotomiser un morceau du cerveau, ou, comme faisait Hitler, le triangle rose pour m'envoyer dans un camp de concentration.
Je tiens à rassurer M. Bory, et quand j'ai dit monsieur, je m'excuse, mais afin d'entrer dans le débat, je voudrais savoir si je dois l'appeler monsieur ou madame.
C'est amusant, mais c'est important.
Au milieu des années 1970, ses critiques au Masque et la Plume et au Nouvel Observateur avaient porté Bory au zénith de sa popularité. Il fallait bien cela pour le protéger de la sottise lorsqu'il publia « Ma moitié d'orange ». « Je ne proclame ni n'avoue », y expliquait-il. « Je dis ce que je suis ». Ceux qui l'aimaient et ne s'étaient jamais préoccupés de l'homosexualité continuèrent de le considérer comme avant, peut-être même mieux qu'avant. Les sermonneurs, qu'il appréciait déjà modérément, le prirent vraiment en grippe. Les attaques qu'il faisait semblant de prendre à la rigolade contribuèrent à le miner de l'intérieur. C'est peu après que, pour de multiples raisons, il descendit les marches de la dépression. Mais c'est le Bory solaire que nous avons envie d'entendre de nouveau ou de découvrir, le Bory que les adolescents avides écoutaient le dimanche soir sur un transistor dissimulé entre les couvertures et dont les parents rejoignaient les salles obscures pour aller voir les films improbables qu'ils leur recommandaient. Le Bory dont la devise était « tout feu, tout flamme ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Il est des bourgs anodins d'apparence. Méréville, présentement dans le département de l'Essonne, en est un. Une vallée dans la Beauce, creusée par une petite rivière, dont l'eau glace les sabots des chevaux. Une colline qu'on nomme pompeusement la montagne. Une place de marché sans guère de marché. Mais les mêmes villages peuvent s'avérer telluriques et faire surgir des histoires hautes en couleurs animées par des personnages singuliers. Le père de Jean-Louis en est un, pharmacien de Méréville. Il ne ressemble pas à un potard, il préfère même l'aquarelle aux médicaments. Le village est par ailleurs occupé par les vestiges d'un parc aménagé au XVIIIe siècle par le marquis de Laborde. L'œil est attiré par ce mystère. Pour Jean-Louis enfant, c'est un peu le domaine du Grand Maulne. De Méréville où il est né, qu'il ne cessera d'habiter, où il se donnera la mort, il fera un Juminville très romanesque.
Je suis né dans un petit bled de la grande banlieue parisienne, exactement à Méréville, qui est du côté des Tempes, et j'ai la chance d'y habiter encore. C'est-à-dire que je suis le contraire du déraciné, je suis très très solidement enraciné. J'ai jamais quitté mon petit village, j'habite encore ce petit village. Mes grands-parents avaient l'idée naturellement de prendre leur retraite ici, ce qu'ils ont fait, ce qui fait que mon père est venu tout gosse. Ce petit village, en fait, est le cœur géographique de mon boulot, de mon œuvre romanesque. Enfin, œuvre romanesque, ça fait prétention, mais enfin, de mes romans. Moi, mon milieu géographique, c'est vraiment ce petit village de Beauce, avec naturellement les rapports et la proximité d'une ville comme Paris. Alors, mon village en Allemagne, c'est ce village-là.
Dis donc, ils sont revenus.
Qui ça?
Eh ben, t'es foutu, maquisin. Et crois-moi, c'était pas pour me faire la morale comme t'as prétendu. Ils ont tout cassé, tout foutu en l'air.
C'était les mêmes que la première fois?
Ben, j'en sais rien, mais c'est évident. Tiens, la preuve que c'était eux. Ils étaient les seuls à savoir où j'avais planqué mon argent. Ils y ont été tout droit.
Et moi, je suis sûre que c'est pas eux, tu vois. Parce que des petits gars comme Juine et Émile sont incapables de faire une chose pareille.
Bah, tiens.
Ça y est, monsieur Furet.
Pardon ?
Ils ont débarqué.
C'est pas vrai.
Mais c'est d'autant plus vrai que ce sont les Allemands eux-mêmes qui l'ont annoncé à leur radio.
Bah, alors où ça, quand
que... Mais ce matin, en Normandie.
Alors ça s'arrose, ça.
Mon village, alors allemande, obtiendra le prix Goncourt en décembre 1945. Colette, la seule femme du jury, la grande électrice de Bory, a retrouvé dans les centres et les potagers de Juminville des senteurs du Saint-Sauveur de son enfance. Près de 200 000 acheteurs se reconnaissent dans les personnages, rarement héroïques. Maintenant que la vie redevient peu à peu normale, ils prennent un certain plaisir à retrouver les couleurs très contrastées du printemps 1944, pendant lequel le livre a été écrit.
Frigoncourt, messieurs Francis Carco et Léo Larrier, ainsi que messieurs Lucien Descaves, Roland Dorgelès et André Billy, que madame Colette est venue rejoindre, ont couronné le roman de monsieur Jean-Louis Bory, Mon village à l'heure allemande. Et voici le lauréat, tout jeune et tout ému, car s'il s'agit du 42e prix Goncourt, il ne s'agit pour lui que du premier.
Ce n'est pas le tout d'avoir le prix Goncourt. Le tout, c'est de se le faire pardonner. Et je vous assure que c'est assez coton. Je vais vous expliquer le mécanisme du prix littéraire et vous allez comprendre pourquoi ça peut être mortel pour un jeune écrivain. Donc, vous écrivez votre premier livre. Le hasard, le jeu des circonstances littéraires veulent que ce prix soit couronné par le prix Goncourt. C'est votre premier livre. Bon. Vous avez immédiatement un énorme tirage qui entoure ce premier livre. Bon, mais ce premier tirage, vous n'avez pas mérité parce que vous êtes Jean-Louis Bory, puisque c'est votre premier livre et que personne ne vous connaît. Vous sortez votre second livre. Votre second livre est ce qu'il est. Comme c'est le second, il est aussi maladroit, naturellement, que le premier, qu'il l'était certainement. Bon, il ne jouit pas de cette espèce de publicité monumentale qu'est le prix Goncourt. Résultat, après avoir connu un premier livre qui tire à 200, 250 000, 300 000 exemplaires, vous tirez votre second livre à un tirage normal pour un livre de débutant, c'est-à-dire entre 1 500, peut-être si tout va bien, 2 000 exemplaires. Vous voyez la bobine de l'éditeur, premièrement. Et ensuite, c'est une catastrophe, parce que ça peut vous briser les pattes.
On date le premier épisode dépressif de Bory de l'année 1947, quand échoue son second roman. Désormais, il va écrire de plus en plus d'histoires, notamment un beau récit des Trois Glorieuses de 1830. L'Express l'embauche comme critique littéraire et il défend, flamberge au vent, Céline, Chardonne, Morand, prenant un grand plaisir à dissocier ses choix politiques de gauche de ses affinités esthétiques. Ce n'est pas un hasard s'il se fait le biographe d'Eugène Sue, un dandy qui se frottait au peuple. L'enseignement lui apporte aussi beaucoup de joie. Jean-Louis est agrégé des lettres, il est nommé jeune encore à Henri IV, le bâton de maréchal, mais il ne conçoit pas le métier de manière militaire. Il est tour à tour père et grand frère de ses élèves, auprès desquels il teste sans cesse sa capacité à être populaire. À la rentrée, quand on disait dans la cour « on a Bory », c'était un cri de ralliement. Il fréquente aussi un petit cercle d'écrivains et d'intellectuels aux positions politiques très diverses, mais qui constitue une sorte de société d'entraide où il est possible d'afficher en toute liberté ses goûts sexuels. Les personnages des romans qu'il continue d'écrire le poussent également aux épaules pour qu'il dise plus clairement qui il est.
Je suis célibataire, mais enfin vous verrez que cette réponse, un petit peu hypocrite, répond tout de même à votre question. Et le fait que je suis célibataire tendra à prouver que justement, je recherche le maximum de liberté à l'intérieur, du moins, d'un certain plaisir, je pense précisément au plaisir de l'amour. Bon. Mais il est bien évident que le mot plaisir, pour moi, est un mot pour lequel j'ai infiniment de respect. Je considère scandaleux le fait que les gens condamnent le plaisir et le mot plaisir au nom de je ne sais quels impératifs, enfin relevant de la morale ou tout ce que vous voudrez. Bon. Pour moi, il y a une espèce de loyauté envers son corps, envers les sens, envers la façon d'en profiter, qui me paraît un impératif de l'existence humaine. Un homme est doué de cinq sens, et même de plusieurs autres. Cinq, c'est le minimum. Et puis, il a une façon intelligente, et j'insiste sur le mot intelligent, il a une façon intelligente d'utiliser son corps et ses sens qui lui permettent justement de fabriquer le maximum de plaisir avec ce que lui apporte la vie. J'aime profondément la vie. J'ai horreur de la mort comme d'une espèce d'obscénité. La véritable obscénité pour moi, c'est la mort, c'est le malheur. Mais c'est pas du tout l'obscénité que les gens considèrent comme obscène. Par exemple, l'érotisme ou une espèce de joie panique sensuelle physique, c'est pas du tout obscène pour moi. Mais un garçon et une fille qui font des galipettes dans de l'herbe avec des marguerites, pour moi, c'est pas du tout l'obscénité, c'est un spectacle merveilleux qui symboliserait presque les vacances, comprenez ?
On arrive toujours à un moment dans la vie où on en a marre de mentir, à soi d'abord, puis aux autres, et où on veut justement vivre selon, en accord avec sa nature profonde, et ne pas en avoir ni honte, ni avoir le goût de tricher. C'est-à-dire, je m'explique, eh bien je me suis aperçu très jeune que je suis comme tout le monde, c'est que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour vivre.
Oui, mais l'autre s'écrit au masculin.
Un autre que moi, mais c'est aussi, ça peut être aussi un autre comme moi. Alors évidemment, cela crée, étant de notre société, cela crée des problèmes.
Alors et vous dites, je suis un minoritaire sexuel.
Oui.
Provisoirement.
Oh non, ça je crois.
Vous ne pensez pas que ce sera la majorité
hein, non, non, vous avez une vue utopique des choses qui rejoint à la fois le fantastique et peut-être l'épouvante. Mais non, je crois tout simplement, c'est que, eh bien, il y a des gens qui s'aperçoivent que ils ont besoin d'aimer, qui n'est pas forcément la façon d'aimer qu'a la majorité.
Vous dites, je m'appelle à la fois Jean-Louis et Denise.
C'est-à-dire qu'il y a en moi, vous comprenez, quelque chose de très profondément enfoui. Vous savez que tout homme n'est pas forcément tout homme ou toute femme, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, il y a des proportions qui varient. Vous avez l'éventail complet, depuis le Cro-Magnon, je ne vois plus en personne, ou depuis justement l'évaporé, vous avez un éventail complet.
Et quel est le pourcentage de Denise, quel est le pourcentage de Jean-Louis?
Alors ça dépend des fois, ça dépend des jours.
Pour ce soir par exemple.
Alors pour ce soir, je suis très très Jean-Louis, vous comprenez? Mais il y a
vous
fois...
Vous avez laissé Denise à la maison.
Non mais je m'entends très bien avec cette personne. Oui. C'est, vous comprenez, c'est ça qui est terriblement difficile, c'est qu'il faut accepter sa nature telle que l'on est. Ça commence à être...
C'est dur en province?
J'ai la chance d'appartenir à un milieu privilégié, d'abord parce que j'ai une famille qui était intelligente, qui n'a pas poussé des cris dès qu'elle s'est aperçue que naturellement que bon, j'étais en marge et que si je voulais être sincère envers moi-même, j'étais condamné à vivre en marge. Dieu merci, j'ai des parents intelligents. Dieu merci, j'ai eu des professeurs intelligents et je suis content d'insister sur ce côté du professorat qui doit être non pas seulement de l'éducation, mais apprendre à quelqu'un, un individu à s'épanouir. Vous savez, le bonheur est une chose très importante dans la vie. Quand on s'aperçoit que votre nature vous oblige à une poursuite, c'est la moitié d'orange, à une poursuite du bonheur qui n'est pas acceptée par la société, c'est très difficile, d'abord parce qu'on a envie de se camoufler, il y a beaucoup de types qui ont honte, qui se camouflent, et justement, je me suis dit, il y en a marre. La société se fout de votre bonheur, ce qui compte pour la société, c'est l'ordre. Par conséquent, elle demande aux individus d'assujettir le bonheur à l'idée que c'est fait de l'ordre. Mais il y a des individus qui ont besoin d'être heureux hors d'un certain ordre. Je suis heureux de profiter de cette occasion pour en parler sérieusement, parce que j'appartiens à un milieu, qui est celui-là. J'appartiens à une société, qui est la classe bourgeoise, qui maintenant l'a tellement vue qu'elle permet tout. Et par conséquent, puis comme j'ai une petite notoriété sur le plan de la littérature, bon, alors je peux me permettre de dire certaines choses. Mais je pense à tous ceux qui, parce qu'ils ne viennent pas dans ce milieu parisien, qui est assez permissif, comme on dit aujourd'hui, qui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une certaine notoriété qui les protège, qui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, justement, de pouvoir s'épanouir et dire « je suis comme ça » et puis « merde ». Bon, eh bien, il y a des tas de gens qui en crèvent parce qu'ils ont honte, qui en crèvent parce qu'ils sont simplement poinçonneurs, parce qu'ils sont vendeurs dans un magasin, parce qu'ils sont ouvriers d'usine, il y en a et qui en souffrent horriblement.
Il y a beaucoup de poinçonneurs qui s'appellent Denise.
Mais bien sûr, pourquoi pas. Là, vous avez une conception très parisienne du fait qu'il est persuadé que les artistes, ce sont des gens qui se permettent tout. Et que par conséquent, c'est dans cette... C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez une conception trop parisienne de la chose.
Il est très rare quand même qu'un monsieur avec une casquette qui fait des petits trous, enfin qui faisait, parce que c'est un emploi qui tend à disparaître.
Grosse erreur, Philippe Bouvard, grosse erreur.
Joue les folles sur un quai de métro.
Pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Je ne devrais faire de peine à aucune corporation. Il y a des camionneurs sublimes qui ont une espèce de Denise entrée dans eux.
Oui.
Mais oui.
Vous en avez connu?
Ben, au hasard des routes, parfois.
Moi, ce que j'aime, dit souvent Boris, c'est le camionneur à moustache ou encore le CRS, mais préalablement dépouillé de son uniforme. Son audience l'oblige, pense-t-il. Il ne doit rien dissimuler. En même temps, sa célébrité le protège. Elle lui est venue très vite avec Le Masque et la Plume. Il y est entré dès 1961 et avec son compère Georges Charensol, ils se sont partagés les rôles à la tribune. À Charensol, le représentant des nouvelles littéraires, celui du témoin de la plus haute antiquité, à Boris, le répertoire de la modernité. Le Masque étant un spectacle autant qu'une émission de radio, chacun force le trait. Boris, au milieu des années 1960, a abandonné la casaque de l'Express pour passer à la rubrique cinéma du Nouvel Observateur et dans les colonnes de l'Hebdo, comme à l'antenne d'Inter, il affirme sa détermination à coucher avec toutes les idées généreuses qui passent. Et une fois qu'il les a partagées, c'est son vocabulaire, il fait profession de les mettre sur le trottoir. Et pour ce, les habille avec effervescence, afin qu'elle trouve le maximum de clients. En face, Charensol surjoue le vieux ronchon.
Tandis que l'Empire des Sens de Monsieur Nagisa Oshima, que nous avons vu à Cannes, alors que Charensol n'était pas à Cannes, alors je lui donnais la priorité, il a vu ça à Paris comme tout le monde. Il est sorti bouleversé.
C'est un film, non pas, pas bouleversé.
Il en faut davantage.
Il en faut beaucoup pour me bouleverser. Talnet, tout à l'heure, a fait des distinctions très justes. À mon avis, ce n'est pas un film sexuel, c'est vraiment un film érotique. Ça se passe beaucoup plus, tout de même, dans la tête de ces deux personnages.
Il met là la tête.
Oui.
Ah non, mais vraiment, ils sont impossibles.
Bon, mais est-ce que c'est beau?
Ils comprennent rien à rien.
Charles, que voudrais-je
dire? Non, c'est un film, moi, qui me touche profondément pour deux raisons. La première, c'est que c'est peut-être le premier film véritablement érotique, au sens où je comprends ce mot, c'est-à-dire où les sens correspondent à ce qu'on souhaite dans une autre partie de son individu que celle dont parle Jean-Louis Borry. Et deuxièmement, il est évident que cette reconstitution des estampes érotiques japonaises dont tout le monde sait que François-Régis Bastide possède une collection admirable...
Il m'a fait le coup plusieurs fois.
Cette reconstitution des plus merveilleuses estampes japonaises du XVIIIe siècle est un enchantement pour les yeux. Or, pour moi, dans un film, d'abord, ce qui compte, c'est la plastique. Ceci dit... Le sujet du film, c'est quand l'érotisme touche à la folie et à la mort. Et quelqu'un qui traite un tel sujet et qui ne se casse pas la gueule, eh bien, chapeau.
Bon, c'est l'opinion de Charançon, l'opinion à toi. Jean-Louis.
Non, c'est un film à la fois terrible, terrible. Et moi, et magnifique et sublime.
Oui.
Et moi, je refuse, la distinction entre sexuel, érotique et porno. Je voudrais qu'on y revienne un jour sérieusement. Moi, je la refuse totalement. Pour moi, il y a du porno et du porno, c'est tout.
Oui.
C'est ce que j'aimerais. Je suis désolé de.
C'est pareil.
Ah oui, mais je m'expliquerai un jour profondément là-dessus.
Ah
si,
bon,
si.
Alors ça...
Le porno, tu comprends, c'est une question de clientèle. Le porno, lorsque c'est pour les travailleurs immigrés ou pour les... Si, mais c'est vrai, pour les miséreux sexuels de la rue Saint-Denis, c'est laid, c'est bas, c'est con, c'est bien là, c'est bon pour ces gens-là. Quand il s'agit, des cadres de moyens et supérieurs qui descendent dans les Champs-Élysées, comme on va voir au Marigot le samedi soir, alors on baisse sur du Mozart, dans des lumières à Georges de la Tour.
Mais ça n'a rien à voir avec le film dont
tu
parles.
Quand on fait...
Ça n'a aucun rapport avec ce film.
Quand on fait des fellations sur une cantate de Bach, c'est de l'érotique. Bon, mais non, la paire de fesses est la même.
Il n'y a pas de cantate de Bach.
Si, attends, excuse-moi. La paire de fesses reste la même, et ce que Georges Charançon appelle la tête est exactement la même. Bon.
Voulez-vous qu'on se repose avec quelque chose?
On peut pas avoir un peu de musique?
Écoutez, mon cher, c'est pas vous qui commandez, contrairement à ce que vous pensez.
C'est une question. Non,
quelqu'un qui ne se trompera pas, c'est Christian Ivaldi, pour qui ce film semble écrit.
Je suis un enthousiaste par tempérament. Souvent, en effet, j'ai mes bonnes œuvres, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un jeune cinéaste qui commence à faire un premier film et que je sais qu'il n'aura pas le support de la publicité qu'ont des œuvres déjà installées, etc., j'ai tendance, en effet, à l'aider. Souvent, je gomme certains défauts pour ne voir que le positif... Et il m'est arrivé de défendre parfois des films qui ne méritaient pas autant de chaleur de ma part, c'est vrai. Bon, mais j'ai souvent défendu, par exemple, certains films du tiers-monde, bon, qui sur le plan de la technique étaient souvent très maladroits. Le problème était naïvement abordé. Je prends un exemple très précis. Le film d'un Sénégalais qui s'appelle Samba Bakr, bon, qui est un jeune cinéaste, une trentaine, quarantaine d'années, qui commence à faire du cinéma dans des difficultés presque à surmonter, mais il réussit à les surmonter. Il a fait un film qui s'appelait Kadou, qui était plein de maladresse, mais j'ai fait un article sur Kadou, mais je crois que j'en ai parlé d'ailleurs au Masque et la Plume, avec chaleur, une chaleur certainement disproportionnée, parce que c'était plein de naïveté et de maladresse. Bon, que c'était pas en effet un chef-d'œuvre.
C'est pas grave, n'importe comment.
Oh, je trouve que c'est pas grave. Et puis, je veux dire que c'est pas parce que j'ai
dit
du bien d'un film qui n'est pas très bon, que bon, ben, que... Je perdrai tout crédit cinématographique.
Bonsoir. Il y a une atmosphère un petit peu rigolote dans ce studio 104 qui n'a pas l'habitude de voir la télévision. J'espère qu'elle va continuer. Je voudrais dire que ce qui continue surtout aussi, c'est le Masque et la Plume à la radio, à France Inter, tous les dimanches, comme d'habitude.
Tous les films dont nous avons parlé jusqu'ici au cours de cette émission, qui est particulièrement riche, car nous avons de très bons films cette semaine, sont des films évidents. Or, nous avons, avec Mort à Venise...
Voilà, un film secret.
Voilà. Oui. Là, véritablement, il me semble que c'est le plus beau film de Visconti depuis Senso, et qui se passait lui aussi à Venise, qui n'est peut-être pas un hasard. Or, précisément, n'est-ce pas, dans Mort à Venise, il y a une extraordinaire délicatesse de touche.
C'est un film qui est profondément bouleversant et terrible. C'est un film déprimant, ça, où on n'en sort pas avec envie de faire des claquettes. Et c'est un film, en effet, sur la mort. C'est une espèce d'énorme poème très lent et qui vous enfonce vers la mort, et pour lequel, pour un artiste, il n'y a qu'un échappatoire, l'art, qui coïncide justement avec une espèce de lumière de l'au-delà. Et ça, c'est merveilleusement dit par Visconti, image après image.
Il y a quand même des choses gênantes.
Non, alors,
il y en a une.
Si, je vois laquelle est laquelle tu si penses. On a accusé Bogard, justement, d'exagérer son jeu. Non. Et vers la fin, la dernière séquence de la fin, lorsqu'en effet, il est pris par certains tics et qu'il y a sa teinture noire, parce qu'il lutte contre le vieillissement, dans l'espoir illusoire que par le rajeunissement dû à des phares, etc., il rejoindra cette beauté qui est une stupidité, parce qu'il y a une autre façon de la rejoindre qui n'est pas celle-là. Ce n'est pas justement dans l'espèce de rêverie d'un contact possible physique. C'est pas ça.
Que tu me dises, là, l'autre
et là, justement, c'est là où il ne va non pas vers la vérité de l'art, mais vers la caricature de l'art. Et justement, il meurt. Il y a le double aspect de la mort. À la fois, c'est là où la marionnette. Et Bogart le fait très bien. Et ça, s'il l'a fait, c'est que Visconti lui a demandé de le faire. Ouais, c'est que là, avec la tenture qui coule, et cette espèce de vieille chose vieillissante et un peu grotesque, et le grotesque a été annoncé dès le premier plan par un personnage, alors là, j'ouvre des guillemets, de tente ridicule sur le Vaporetto de Venise. Et Visconti l'a voulu, et c'est dans Thomas Mann. Et d'autre part, il y a aussi l'épisode, et Cham a parfaitement raison, très important, des comédiens grotesques et répugnants qui apportent une série de gueules caricaturales qui sont une forme du choléra.
Les années passant, Bory, qui déjà s'était toujours senti laid, s'inquiétait de son vieillissement, comme le héros de Mort à Venise. Le nez se pince, les lèvres s'avalent, quand le corps ne durcit pas, il s'amollit, il pourrit. « J'ai peur, disait-il, que l'usure ne me ronge de l'intérieur. »
C'est une peur qu'on attrape forcément qu'en grandissant. C'est justement la peur du vieillissement, non pas tant pour la mort, que je ne crains pas du tout, enfin, peut-être parce que sur ce plan-là, je manque d'imagination, mais c'est la peur du gâtisme. J'ai une peur affreuse de devenir complètement gâteux. Ça, c'est une hantise qui, naturellement, augmente avec l'âge. Et puis, c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle j'ai profondément admiré Monterland, pour lequel je n'avais pas une admiration délirante pour d'autres raisons, d'ailleurs. Mais lorsqu'il s'est tué, justement parce qu'il s'est vu devenir quelqu'un qui ne trouvait plus digne de lui-même, cette mort stoïcienne m'a beaucoup impressionné et j'ai beaucoup admiré Monterland ce jour-là.
Pas d'autre peur en dehors de celle-là qui vous est poussée en quelque sorte depuis l'âge adulte?
Si, peut-être aussi la peur de certaines lâchetés. Enfin, par exemple, au moment où j'avais des engagements politiques beaucoup plus violents que ceux que j'ai maintenant, pendant la résistance, l'idée que j'aurais pu être arrêté et torturé, et l'idée que je ne me serais peut-être pas forcément bien conduit, ça c'était une véritable peur. Enfin, bon, j'ai fait un petit peu de maquis, pas beaucoup, enfin, je ne suis pas du tout un héros de la résistance, ils s'en foutent beaucoup, mais j'ai participé à des opérations de maquis vers 1944, et je suis très, d'une façon générale, je suis très maladroit. J'ai horreur des armes, je déteste les armes. On avait eu l'imprudence de me confier une espèce de mitraillette dont j'ai jamais su me servir, qui ressemble à une espèce de brasero maigre, puis ça partait comme ça tout seul. Bon, pas besoin de vous dire que j'ai pris cette mitraillette comme on prend un homard furieux et que je m'en suis jamais servi. D'autant plus qu'un jour, j'ai vu un jeune homme près de moi qui avait 17-18 ans et qui s'est, par maladresse, qui s'est entièrement déchargé tout son chargeur dans son ventre. Pas besoin de vous dire que c'est une chose qui m'a formidablement choqué, profondément choqué, ce qui a expliqué d'ailleurs beaucoup ma haine des armes, ma haine d'un certain ordre militaire, ma haine d'une certaine violence, etc. Tout ça n'a pas contribué à arranger les choses. Et ça, c'est une chose que j'oublierai jamais.
Individuellement, dans mon petit sac de peau, je me considère comme un individu heureux.
Vous n'êtes pas amer.
Pas du tout. Je deviens amer que lorsque je vois le futur que l'on va proposer aux jeunes gens. Parce que je trouve que les malheureux, alors là, ils sont floués, comme dirait Mme Simone de Beauvoir, d'une façon scandaleuse. J'ai l'impression que ma génération est peut-être la dernière à avoir eu une existence qui me paraît humaine. Quand je vois mes nièces, ou quand je vois mes élèves, parce que je suis resté tout à fait en rapport très étroit avec beaucoup de mes élèves, je leur dis souvent, mais pauvre coco, le monde qu'on vous prépare, à mon avis, sera un monde qui sera beaucoup plus stupide que le nôtre, infantilisé, et qui me paraît déjà terriblement étriqué. Quand on voit le Paris de l'an 2000 qu'on leur prépare, etc., ce qui frappe, c'est que de plus en plus, pour les citoyens de ces villes et de ce monde, le temps et l'espace, ce sera devenu deux luxes parfaitement inaccessibles. J'ai l'impression que plus on va, et le progrès aidant, la civilisation s'étrique. Et ça me désole. Ce que je souhaite seulement, c'est que les futures générations trouvent d'autres façons de s'évader que celles qui consisteront à goûter le silence, qui sera une denrée parfaitement inconnue, merveilleusement périssable. Les autres, c'est-à-dire tout le monde, trempera dans le bruit, aura 50 cm carrés pour vivre, avec de temps en temps des échappatoires, avec des frontières délimitées, des raies jaunes, des raies vertes, des raies blanches, etc., pour aller de tel endroit, 50 cm carrés, à tel autre endroit, 150 cm carrés, pour respirer, à l'intérieur d'horaires précisément minutés. Mais ce nouveau bonheur, moi, personnellement, je ne suis pas capable de l'apprécier parce que je suis déjà d'une génération qui est une génération de dinosaures. On s'arrange pour faire en sorte que les gens, les êtres, deviennent de plus en plus des troupeaux dociles à l'intérieur d'un certain cadre soigneusement aménagé, confortablement aménagé, pour que le troupeau n'ait pas envie de donner des coups de corde aux bergers qu'il garde.
Une société de consommateurs.
Exactement, ben ça j'en suis persuadé. Mais ça, malheureusement, j'ai une peur affreuse que ça soit la marge de l'histoire. Là, ce qui me rend terriblement pessimiste, c'est que lorsqu'on allume des feux rouges en disant « Attention, attention, méfiez-vous de votre frigidaire, méfiez-vous du Tour de France, méfiez-vous du tiercé, ce sont les opiums de la civilisation moderne », les gens vous répondent « Foutez-nous la paix, on aime bien cet opium ». C'est ça qui me terrifie. C'est qu'au moment même où on leur dit « Vous aurez un appartement avec air conditionné, vie d'ordure, etc. Vous aurez une télévision qui vous présentera du Bourville tous les samedis soirs et du Louis de Funès tous les dimanches soirs avec Monsieur Guilux pour les week-ends et puis je ne sais combien de papiers à payer régulièrement chaque mois. Mais ne vous inquiétez pas, vos comptes chèques postaux s'en occuperont pour vous.
Vous pouvez mourir, on sera payé.
Voilà, mourir, nous ferons le reste. Beaucoup de gens sont prêts à vendre leur âme pour cette espèce de paradis-là. C'est ça qui me terrifie, c'est ça qui me rend terriblement pessimiste.
La dépression avait déjà frôlé le jeune Jean-Louis en 1947, puis en 1952, quand son ami, le prof de gym du lycée, l'avait trompé. « J'ai mis mes voiles de veuve », disait-il alors plaisamment à ses amis. À partir du milieu des années 1970, l'âge venu, l'étau qui se resserre sur lui est beaucoup plus étroit. Sa dernière passion lui coûte très cher, à tous les points de vue, d'autant qu'obligé pour se soigner de s'absenter de plus en plus souvent du Nouvel Observateur et du masque, l'argent ne rentre plus alors que, de l'autre côté, il file à gros bouillon. Le 25 juin 1979, il va avoir 60 ans. Le 11, il prend un taxi à la gare des Tempes afin de gagner une dernière fois Méréville. Au chauffeur, il dit « La campagne est jolie, pourvu que ça dure ». C'est sûr, il ne fait pas un temps pour mourir. Ensuite, il met dans un premier temps une cartouche de 6.35 dans une carabine 22 long rifle. Il n'a jamais été très adroit de ses mains. Puis, il trouve la bonne solution et ne se rate pas. Il a toujours été de tempérament volontaire. Toutes les archives que vous avez entendues, préparées par l'équipe de La Marche de l'Histoire, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, ont été choisis dans le fond de France Inter et de Feu, la radio nationale, et aussi dans celui des émissions de Philippe Bouvard. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin avec à la technique Mehdi Fatah.